chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Un caillou nommé Pitcairn. L'île qui devait s'appeler Pitcairn, aperçue par un bateau espagnol au début du XVIIe siècle, fut découverte par le capitaine Carteret, commandant le Swallow, en 1767, une tempête ayant provoqué quelques détours de navigation. Il décrit un gros rocher couvert de forêts denses, mais ne comportant aucune grève pour débarquer, la forte houle rendant tout accostage périlleux. C'est ce qu'il écrivit dans son livre de bord. Les descriptions ultérieures ne varieront guère. Après avoir pris le commandant de la Bounty le matin du 28 avril 1789, en vue de l'île de Tofoa, qui est dans l'archipel des Amis, et jeté dans une chaloupe le capitaine Blight et les 18 hommes non rebelles, lors de la célèbre mutinerie, Fletcher Christian retourne à Tahiti. Le roi de Tahiti refuse de garder les mutins et Christian sait très bien qu'il ne doit pas y rester, tout autant qu'il ne peut rentrer en Angleterre. Il doit chercher un endroit isolé, vivable, loin des routes maritimes. Il connaît l'existence de Pitcairn par les cartes de Blight, mais la position indiquée reste imprécise. Les mutins mettront 2 mois pour trouver l'îlot, fin septembre 1789, lieu idéal, à l'abord difficile, qui s'avère une terre fertile, pleine de ruisseaux et d'arbres magnifiques. Les mutins trouvent un premier abri dans une grotte, puis, après avoir tiré tout ce qui était possible du bateau, le brûlent le 23 janvier 1790. Ainsi finit la Bounty, et Pitcairn sera le domicile définitif des mutins. En mars 1791, le capitaine Edwards, sur Pandora, passe à moins de 100 miles de Pitcairn et Blight, absous de toute faute par la cour martiale de la Navy, ayant entrepris son deuxième voyage pour transporter les fameux arbres à pin aux Antilles, cherche également Christian, sans le trouver. Il s'arrête à Mangareva et passe lui aussi, de nuit, début 1792, à moins de 300 miles du refuge des mutins, lesquels sont encore tous en vie. Les mutins sont au nombre de 15 et ont embarqué 12 femmes polynésiennes et quelques Polynésiens. L'épouse de Christian ainsi que celle de l'aspirant Edward Young sont d'excellentes familles polynésiennes. Le premier enfant de Christian naît en 1790. C'est un garçon qu'il prénomme Jeudi Octobre. Suivront un autre garçon, Charles, et une fille, Mary. La question des femmes ne va pas tarder à se poser. En effet, l'épouse de John Adams se tue en tombant d'une falaise et ce dernier s'approprie la compagne d'un indigène. C'est bientôt l'échauffourée générale. En 1793, Christian est assassiné ainsi que Williams, Mills, Brown et Martin. En 1794, il ne reste que 4 mutins vivants. Edward Young, John Adams, qui sera l'ultime survivant, Matthew Kental et William McCoy, ainsi que 11 femmes et des enfants en bas âge. Pour le malheur de tous, McCoy fabrique un alambic avec les chaudrons de cuivre sortis de la Bounty. L'alcool sera le fléau suprême. Les hommes restants, anglais et polynésiens, s'exterminent à la hache, puis Young meurt de mort naturelle, en 1798, à la suite d'une crise d'asthme. Il est bien le seul à mourir de mort naturelle. John Adams reste donc seul avec les femmes et les enfants. C'est lui qui, en 1808, accueille le capitaine Folger du Topaz, qui réussit à accoster en chaloupe. Ce dernier donne le premier récit sur les habitants de Pitcairn et de leur destin à l'amirauté le 14 mars 1809. Il décrit les vergers, la culture du taro, des patates, des ignames, les poules, les ruches et le miel, les maisons collectives regroupées sur la côte à l'abri des vents dominants. Mais l'Angleterre est alors en guerre contre la France et le sort de Pitcairn l'intéresse peu. Blight, pour sa part, après avoir essuyé une nouvelle mutinerie en 1797, puis s'être illustré sous les ordres de Nelson à la bataille de Copenhague, est devenu membre de la Royal Society pour ses talents d'hydrographe et de cartographe. Il connaît alors les pires ennuis, car nommé gouverneur des Nouvelles-Galles du Sud, il doit affronter à Sydney, en 1808, la révolte du Rhum, qui lui vaudra, de la part de ses mutins nouveaux, 2 années d'emprisonnement. Sur l'île de Pitcairn, Adams a donné plusieurs versions des affrontements dans l'île et du destin de Fletcher Christian, lequel demeure incertain puisqu'on a cru à plusieurs reprises l'apercevoir à Londres et ailleurs en Angleterre auprès de sa famille vers 1807. Mais cette probabilité est quand même très incertaine. En 1814, le capitaine Staines et Pipon, sur les frégates Brinton et Tagus, recueillent aussi des récits. Jeudi octobre, le fils aîné de Fletcher Christian a alors 24 ans. Les deux nouveaux Pitcairiens s'installent volontairement, laissés par un baleinier. Ils ont nom, Buffett et Evans. En 1825, le capitaine Bichet, sur le Blossom, s'arrête à Mangareva et passe à Pitcairn. Puis, en 1831, c'est au tour de Sir John Barrow de narrer l'aventure et le récit des îles dangereuses de la Grande Mer du Sud. Suivent 30 années tragiques qui donneront à l'île une réputation sinistre. Une ligne maritime assez régulière est désormais établie depuis Valparaiso, desservant l'île de Pâques, Mangareva et Tahiti, et elle s'arrête parfois à Pitcairn. Elle y débarque George Knobb, qui instaure, pétri de bigoterie et de vénéneuses superstitions, une sorte de terreur religieuse, peut-être eu égard aux crimes passés d'ailleurs. Et toujours en provenance du Chili, un fou vantard et cruel, Joshua Hill, un escroc qui a déjà sévi à Tahiti pendant 1 an, fait régner la terreur pendant 5 ans, jusqu'en 1837, jusqu'à ce que son arrogante fumisterie soit découverte par une escale de Lord Russell. Le capitaine Bruce, sur l'Imogène, est alors chargé de s'emparer de Hill et le débarque à la prison de Valparaiso. C'est à ce moment seulement que la Grande-Bretagne commence à s'intéresser à la communauté de Pitcairn. On en est à la 3e génération. Blight, qui a eu 6 filles, est mort à Londres le 7 décembre 1817, vice-amiral, couvert d'honneur, inhumé chez lui dans le Kent, avec un fils mort à 1 jour en 1795 et un petit-fils mort à 3 ans en 1803. C'est aussi le moment où les rivalités coloniales et religieuses s'échauffent dans le Pacifique. En décembre 1856, un recensement britannique dénombre 194 âmes à Pitcairn et décide de transférer tout le monde à l'île de Norfolk, proche de la Nouvelle-Zélande, où presque toute la colonie fera souche. Le transfert se fait paisiblement. Mais 2 ans plus tard, en 1858, se languissant de leur île, de leurs vergers et de leurs abeilles, les familles de Williams et de Moses Young affrètent un bateau à leurs frais et retournent à Pitcairn. En 1863, suivront les familles Christian, Buffett et Warren et l'autre branche Young. Les actuels Pitcairniens sont donc les descendants de ces 6 familles. L'isolement est moins grand, encore que les bateaux de passage restent fort rares et accostent peu. Le plus souvent, ce sont les Pitcairniens qui vont, en baleinière, visiter ces navires et chercher les biens dont ils ont besoin. En 1876, une caisse arrive d'Amérique contenant la Bible et les principes des Adventistes. 10 ans plus tard, en 1886, un missionnaire des Saints des Derniers Jours, John Tay, évangélise l'île. En 1901, le Pyrénées, commandé par le capitaine Bryce, brûle au large de Pitcairn sans que les Iliens puissent le secourir. En 1933, il y a la fameuse aventure de James Norman Hall qui visite l'île pendant 4 jours. Ben Young est de la quatrième génération et a 82 ans, le patriarche de l'île, ainsi que Parkins Christian, qui en est le juge et le président du Conseil des Anciens. De nos jours, la vie est paisible à Pitcairn. L'île compte moins de 80 habitants. On m'a dit 74, mais cela reste à vérifier. L'île de Pitcairn bénéficie au sein du Commonwealth de son autonomie et d'un protectorat financier et administratif de la Nouvelle-Zélande. On n'y paie pas d'impôts, il n'y a pas de monnaie. L'île émet des timbres qui sont imprimés en Nouvelle-Zélande et a son propre visa, lequel coûte 5 dollars néo-zélandais. Il est délivré par l'unique policier néo-zélandais qui y réside un an. Le courrier est relevé 4 fois l'an. Un médecin et une infirmière assurent désormais la sécurité médicale. Les enfants ont un enseignement primaire, mais pour la suite, ils partent en Nouvelle-Zélande où ils découvrent la vie moderne. Ils reviennent pour les vacances, mais la jeune génération tente à déserter. Il y a peu d'électricité, fournie par des générateurs, pas de télévision, aucun aérodrome, même pour les hélicoptères. L'accostage est toujours aussi difficile, dû à une houle très ample, même s'il y a un petit débarcadère aménagé. On y rencontre des Christians, des Young, des McCoy, qui parlent entre eux un jargon anglais très 18e siècle, avec des intonations chantantes. La vie est très collective et les maisons sont familiales. Des veillées communes sont nombreuses. Depuis peu, des quads, débarqués à grand-peine, sont les meilleurs moyens de circuler sur ce rocher escarpé aux pentes abruptes, mais d'une fertilité peu commune. On pratique l'élevage, la vannerie, le tissage. Le miel est qualifié de « meilleur du monde ». Le grand changement depuis 30 ans est évidemment l'irruption des moyens de communication, l'Internet et la plus grande facilité de transport maritime réduisant le sentiment d'isolement. Simon Young est le maire adjoint de l'île. C'est un homme mince et posé, très affable, au regard un peu triste. Presque tous les Iliens sont partiellement polynésiens, avec des caractéristiques plus ou moins prononcées. Sur l'île de Norfolk, qui fut un temps le lieu d'exil, les descendants des familles qui y ont fait souche organisent pour les touristes des spectacles sur l'aventure de la Bounty, et cela amuse beaucoup. Je suis allée à Pitcairn. À l'approche, l'imposant rocher s'élève sur l'eau. Il faut le contourner de loin pour apercevoir les premières traces de présence humaine. Pas de route, que des sentiers abrupts et de longues cases plates disséminés dans la nature. La description de Carteret reste contemporaine. L'accueil est aimable, mais réservé. L'ambiance silencieuse, hors le ressac de la houle. Depuis peu, Pitcairn s'ouvre un peu aux bateaux de croisière, mais sans débarquer. Ce sont les Pitcairniens qui viennent en baleinière offrir leur artisanat, leur timbre et un spectacle. Ils font cela gentiment, mais avec une certaine résignation financière. Le 4 février 2012, l'île a connu une forte tempête tropicale qui a détruit plusieurs bâtiments, le débarcadère, et causé de gros éboulements de terrain. Les mois à venir seront à la reconstruction.